Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour le service protestant. Ce matin, je vous propose de cheminer à partir d'un texte de guérison un peu particulier, au chapitre 9 de l'évangile de Jean. Un texte particulier parce qu'il s'agit de la guérison d'un aveugle de naissance, mais également particulier de par sa longueur, tout un chapitre, construit comme une enquête où chacun s'interpelle et s'interroge sur ce miracle étonnant. Nous en parlons de suite avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin David McCain, pasteur de l'Église protestante unie de France et aumônier militaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, une petite question sur le rôle d'aumônier militaire pour mieux vous connaître. Quelle est votre fonction exacte?
Alors, j'ai eu la chance, à travers des ministères de paroisse au début de ma carrière, d'être aumônier des hôpitaux, aumônier de prison, aumônier militaire et même aumônier d'aéroport. Et s'il y a un point de convergence entre ces quatre aumôneries, c'est qu'un aumônier, c'est quelqu'un qui doit être là quand on a besoin de lui. Ou elle, hein, parce qu'il y a des femmes aumôniers, bien sûr, et l'aumônerie militaire protestante est la seule aumônerie à envoyer des femmes en OPEX. Donc l'aumônier a un rôle de confiance et d'écoute, ça c'est très important, mais aussi dans le cadre de l'aumônerie militaire, il a aussi un rôle de conseil au commandement. Dans un système fortement hiérarchisé, l'aumônerie est hors hiérarchie. Donc un aumônier a des marges de manœuvre absolument phénoménales, à condition effectivement de rester dans les règles communes.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager sur l'aumônerie militaire à...
Mon service national. C'est-à-dire que j'ai fait mon service national en 81-82, ça ne nous rajeunit pas, pour me donner un an de plus de réflexion avant d'attaquer la théologie. Et là, j'ai découvert que, à travers le brassage que cela représentait, je me suis retrouvé comme simple soldat. Et pendant la période d'éclat, je me suis retrouvé à écrire les courriers de mes camarades de deux chambrées qui ne savaient pas lire et écrire. Et c'est là que j'ai découvert que être inalphabète n'est pas forcément signe de ne pas être intelligent. Mais de par l'éducation que j'avais reçue, ça a été un tel choc et une telle contradiction avec tous les principes que l'on m'avait inculqués, que j'estime devoir à mon service national ce qui est probablement la plus importante découverte humaine de ma vie. Et en plus, le milieu m'a aidé, j'ai eu la chance d'exercer mon service dans des fonctions où on voyait comment les choses fonctionnaient, donc ça m'intéressait beaucoup.
Dans quel domaine aujourd'hui vous exercez ce ministère?
Je vais au contact des gens, je partage avec eux, je m'intéresse à ce qu'ils font, par exemple autour d'un café. En fait, il faut rentrer dans le paysage visuel des gens. À ce moment-là, le climat de confiance s'établit, et à ce moment-là, il y aura plus de chances qu'ils fassent appel à vous que si je reste dans mon bureau.
Très concrètement, aumônier militaire, on est dans un bureau, dans une base militaire, on est obligé d'aller toquer aux portes. Comment ça se passe concrètement?
Alors très concrètement, d'abord on fait beaucoup de voitures, parce que comme les aumôniers militaires protestants ne sont pas très nombreux, ils ont des secteurs assez vastes. Là actuellement, j'ai deux départements.
D'accord, donc c'est bien plus qu'une base,
voilà,
c'est beaucoup de sites
bases,
différents.
Régiments, etc. Et puis, on va au contact, on organise des visites régulières. Je vous dis, pour moi le principe d'un aumônier, c'est d'entrer dans le paysage visuel des gens. Et à partir de là, vous faites partie de la maison, et c'est là que la confiance peut s'établir.
Alors, pour en revenir au texte du jour, pourquoi avoir choisi ce texte de la guérison d'un aveugle de naissance chez Jean?
Alors, tout simplement parce que j'ai été amené à le présenter dans un autre milieu non religieux, et c'était très intéressant de le décortiquer dans ces conditions-là. Et quand j'ai vu que dans le calendrier Parole pour tous, que c'était le texte de ce dimanche, d'aujourd'hui, j'ai décidé de le prendre.
Ce texte, alors, il aborde beaucoup de sujets différents, mais il y a toujours un premier aspect qui nous saute aux yeux, c'est l'aspect un peu miraculeux, guérison. Comment le recevoir, comment le comprendre, cet aspect-là, quand on entend le texte?
Bah écoutez, je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, il y a deux parties dans ce texte. Il y a la partie probablement du signe de Jésus, c'est dans le livre des signes. Et la deuxième partie qui va être un petit peu tout le feuilleton qui va se déclencher après ce signe.
Donc miracle comme signe, c'est-à-dire comme quelque chose qui révèle, qui apprend quelque chose.
Alors, il faut savoir qu'en grec, dans le grec du Nouveau Testament, c'est le même mot pour signe et miracle. Et donc, où on traduit par signe, on traduit par miracle, ce qui est déjà une option théologique du traducteur.
Je vous invite maintenant, pasteur David McKen, à nous conduire dans ce temps de méditation.
On va l'introduire par quelques paroles du prophète Jérémie. Parole du Seigneur, je connais moi les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous crierez vers moi et vous avancerez. Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Seigneur notre Dieu, nous nous posons devant toi pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Donne-nous le privilège de pouvoir te chercher de tout notre cœur et la grâce de te trouver. Ta parole est grâce et paix. Donne-nous de nous en emparer. Qu'elle éclaire notre avenir, qu'elle devienne notre espérance. On va donc prendre le texte maintenant. Donc le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Il commence ainsi. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent la question, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répondit, ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla. Il se lava. Et, à son retour, il voyait. Donc, vous l'avez entendu, tout commence avec une grande simplicité. En passant, Jésus vit un aveugle de naissance. Le constat est tout simple. Complètement anecdotique. Jésus aurait pu passer complètement à côté de cet aveugle, mais voilà que les disciples posent la question qui déclenche toute l'histoire. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Rappelons-nous qu'à cette époque, comme d'ailleurs pendant de longs siècles après, dans la société, l'infirmité était perçue comme une punition de Dieu en réponse à une faute inconnue. Donc, la question des disciples, si elle est anachronique aujourd'hui, paraît logique. Mais voilà que Jésus répond, ni lui, ni ses parents. Premier bouleversement. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Aucun jugement, donc, l'aveugle est là, c'est un fait. Mais, par la réponse du Christ, puis par les événements, voilà qu'il va devenir, avec le retour à la vue, le support de la manifestation de Dieu à l'œuvre dans le monde. Et Jésus d'ajouter, « Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Par ces mots, Jésus se présente comme le Logos, la parole. C'est le prologue de l'évangile de Jean, qui définit le Logos, la parole, comme la lumière qui luit dans les ténèbres qui ne l'ont pas acceptée. L'aveugle de naissance, d'une cécité qui n'est pas une sanction, mais un état, devient chacun d'entre nous. Dans la cécité, il commence un cheminement vers la lumière, offert à chacun, pourvu qu'il accepte de cheminer avec elle. Et je pense aux paroles du chant du serviteur dans le livre d'Ésaïe, « Et je vais guider les aveugles sur un chemin, sur des sentiers qu'ils n'avaient jamais suivis. Pour eux, je changerai l'obscurité en lumière, les obstacles en terrain plat. C'est cela mon projet, je n'y renoncerai pas, je le réaliserai. » Dans le chapitre 42 du livre d'Ésaïe. Donc, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». On va rappeler les paroles du prologue, hein. Au commencement était la parole était tournée vers Dieu, la parole était Dieu, et un peu plus loin, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Donc quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il pose l'enjeu de tout ce qui va suivre, le choix de la lumière, ou celui de rester, voire de plonger, dans les ténèbres. Et si vous regardez bien, c'est par l'organe de la parole que l'opération de découverte de la lumière commence. Jésus cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, l'appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'aveugle y alla, se lava, et à son retour il voyait, nous dit le texte. Et le mélange de la salive avec la terre n'est pas innocent. Donc la salive, évidemment, on comprend que c'est la matière sécrétée par la parole qui devient l'outil de guérison, mais avec le mélange que Jésus fait avec de la terre. Et la terre, c'est le rappel du Créateur qu'il avait fait au moment de créer l'être humain. Jésus prit la terre, en hébreu, la hadama, pour en faire le hadam. La terre, pour en faire le terrien, mot à mot. Et donc, par son acte, Jésus va inviter l'aveugle à agir pour se découvrir recréé par le recouvrement à la vue. Et la symbolique donc de la recréation continue quand l'aveugle obéit à l'ordre d'aller se laver à la piscine. C'est par l'eau qui lave et qui purifie, exactement comme l'eau du baptême, qu'il recouvre la vue. S'il est passif d'un côté, en recevant le mélange sur les yeux, l'aveugle devient acteur de sa guérison en allant lui-même se laver les yeux. C'est essentiel pour la suite. Rappelons que dans la tradition biblique, tout mélange est impur. Donc, le mélange salive-terre, lavé par l'eau, l'est aussi. Et voilà qu'en prime, Jésus a agi un jour de sabbat. Les pharisiens vont refuser d'accepter que l'aveugle ait été guéri, de surcroît par ce Jésus qui commence sérieusement à les insupporter. Et voilà que se déclenche alors un véritable procès au sujet de l'aveugle. Les pharisiens, divisés entre ceux qui ne veulent rien savoir de ce signe de Jésus parce que opéré un jour de sabbat, et ceux qui commencent à penser qu'un tel signe ne peut se faire sans l'aide de Dieu, les voilà qu'ils décident de rechercher le témoignage des parents de l'aveugle. Et ces derniers vont affirmer ceci, « Nous sommes bien certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. » Comment il voit maintenant? Nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux? Nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand. Et les pharisiens vont effectivement l'interroger. Reprenons le récit biblique. Les pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur » à propos de Jésus. Il leur répond, « Je ne sais si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Alors les pharisiens dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Et l'aveugle répond, « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi ?» Les pharisiens se mirent alors à l'injurier en disant, « C'est toi qui est son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » Et l'homme répondit, « C'est bien là, en effet, l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. » Dieu nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, ajoute-t-il. Mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et les pharisiens ripostèrent, tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Non seulement l'aveugle persiste dans son témoignage qu'il base sur le constat de son passage de l'obscurité à la lumière avec une très grande simplicité, mais à la manière du praticien d'un art martial, il va utiliser la violence verbale des pharisiens pour qu'elle se retourne contre eux. C'est le sens du dialogue. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Réponse, je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples vous aussi? L'ironie est féroce. Mais en même temps, par cette dernière question, il leur donne une dernière chance de ne pas sombrer dans la cécité symbolique. Les pharisiens vont alors s'enfermer dans ce qu'ils estiment être leur légitimité, la référence à Moïse, c'est-à-dire dans la tradition biblique, la loi, la Torah, celle qui, pour eux, a réponse à tout. D'où la dernière remarque de l'aveugle, c'est bien cela en effet l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Et nous sommes dans un procès, même symbolique. Donc, il y a une vraie plaidoirie de la part de l'aveugle, qui affirme que dans la situation présente, c'est le Christ qui est un homme de Dieu, pas les pharisiens. Et en fait, l'argument des pharisiens, c'est le retour à la case départ. Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon, avant de le jeter au dehors de la synagogue. La violence de cette expulsion, c'est la violence du refus d'un réel, dont la remise en cause qu'il peut provoquer deviendrait effrayante. En rappelant à l'aveugle qu'il est péché depuis sa naissance, les pharisiens refusent, au nom de la référence à Moïse, de voir ce signe qui est devant eux. Ils préfèrent rester confinés dans le cocon de leur certitude plutôt que de se laisser interpeller par le signe. Cette passivité les rend aveugles. Là où le cheminement de l'aveugle se conclura dans un dialogue avec Jésus qui dira « Je crois, Seigneur, sans ambiguïté », les gardiens du temple cheminent, eux, vers et dans l'obscurité, comme un rappel du prologue de ce même évangile, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et Jésus d'ajouter, en guise de conclusion, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. La boucle est bouclée. Celui qui était dans la ténèbre a pu, parce qu'il a accepté de se laisser interpeller, parce qu'il a agi pour. Il a pu passer dans la lumière. Et ceux qui étaient dans la lumière, parce qu'ils n'ont pas pu ou n'ont pas su accepter une interpellation, parce qu'ils sont restés passifs dans leur certitude, les voilà qui plongent dans les ténèbres. Ce que je tire de cette analyse, c'est qu'au même titre que l'aveugle a dû devenir acteur de sa guérison en allant se laver, acteur de sa défense devant les pharisiens par sa plaidoirie, chacun d'entre nous est appelé à être acteur de l'Évangile. Acteur de l'Évangile, l'expression peut surprendre. Pourquoi acteur? En fait, nous sommes tous acteurs de notre vie sans nous en rendre compte. L'habitude et la routine du quotidien peut souvent nous faire oublier que la vie n'est pas figée. Car elle ne cesse d'avancer en suivant le courant du temps qui s'écoule dans une création qui évolue. Je pense au philosophe danois Kierkegaard qui avait fait ce constat un jour en voyant un rameur dans le port de Copenhague. Le rameur avance en se repérant parce qu'il regarde d'où il vient. Il ne voit pas vers où il va, exactement comme chacun d'entre nous se repère grâce aux expériences du passé et ne connaît pas précisément son futur. Mais si le rameur n'agit pas sur les rames, il dérive. Si nous n'agissons pas sur le présent, nous aussi, nous risquons de dériver. Nous devons être acteurs de notre présent. Oui, la création évolue, mais l'humanité aussi évolue. Les enfants deviennent des adultes. Puis ils deviennent des parents en ayant des enfants qui, à leur tour, deviendront adultes, puis des parents, etc., etc. Ainsi, chaque personne, chaque individu, quel que soit son âge, quelles que soient ses convictions, quelle que soit sa race, participe personnellement à cette évolution. Il en est un acteur. Acteur de la marche de la vie, acteur par son action, acteur par l'expression de son corps, par ses gestes. Pour l'Évangile, c'est exactement la même chose. Par un geste, par une parole, par un regard, chacun se retrouve acteur de l'Évangile. Alors comment définir l'Évangile ? Eh bien l'Évangile, c'est cette bonne nouvelle qui nous surprend souvent, qui nous agresse parfois, en nous mettant en face de la réalité de nos défauts ou de nos erreurs, mais qui ne cesse de donner à notre vie son sens. Le sens de la vie, c'est cela. Chacun, qui qu'il soit, est précédé, attendu et accueilli par le Christ. Et être acteur de l'Évangile, c'est se retrouver porteur de ce message qui nous annonce que l'important pour Dieu n'est pas de faire subir l'existence en régnant sur nos vies, mais de nous permettre de vivre l'existence en nous offrant de pouvoir lui donner un sens. Et si cela peut nous effrayer devant l'ampleur de la responsabilité, qu'importe ? Même les plus grands acteurs ne réussissent pas à se débarrasser de leur trac. Cela ne les empêche pas d'être justes, émouvants, et de savoir partager avec chacun les émotions qu'ils donnent à leurs personnages. De même, les témoins les plus timides peuvent se révéler les plus touchants et les plus justes en devenant porteurs d'une simplicité qui désarme les plus récalcitrants. Et j'irai même plus loin. Sans le témoignage de chaque croyant, l'Évangile est un texte daté de 20 siècles qui reste figé dans son écriture et dans son époque. Par le témoignage de chaque croyant, l'Évangile devient vivant. Il devient une parole de vie qui nous rappelle sans cesse que le Christ est à nos côtés. Reprenons les propos du début de notre texte. Aux disciples qui demandent « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répond « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent. En suivant ce que le Christ nous demande, à l'image de cet aveugle qui va lui-même se laver dans la confiance pour recouvrer la vue, chacun d'entre nous, qui qu'il soit, devient acteur de l'Évangile pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Je le redis, n'ayez pas peur, le trac n'empêche pas de transmettre la vérité et l'émotion. Oui. Sachez que le Christ est aux côtés de chacun, pour qu'il puisse être acteur de sa parole et de l'espérance qu'elle apporte dans le monde. Je vous invite maintenant à un moment de prière. Seigneur notre Père, donne-nous la confiance. Fais-nous ressentir la force et le bien-être qu'elle apporte, afin que nous puissions être acteurs de ton évangile. Nous te prions pour ceux qui te cherchent et qui ne savent pas où te trouver. Que ce soit parce que leur dénuement est trop grand, que ce soit parce que la maladie est trop forte, que ce soit parce qu'ils se retrouvent sans maison ou sans pays. Oui, Seigneur, nous te prions pour eux. Ta parole est une lampe à mes pieds, a dit le psalmiste, que ta parole vienne les éclairer et les guider vers la sortie du tunnel dans lequel ils se trouvent. Nous te prions pour ceux qui servent au loin de chez eux, que leur mission soit humanitaire, diplomatique, militaire au service de la paix. Accompagne-les. Accompagne leur famille, restée au pays, et donne-leur de vivre à l'issue de retrouvailles apaisées. Enfin, nous te prions pour ceux dont les responsabilités ont des conséquences directes sur la vie des autres. Que leurs responsabilités soient politiques, économiques, éducatives ou religieuses, donne-leur de faire des choix au nom de la confiance qui est mise en eux. Amen.
J'étais en compagnie de David Macken, pasteur de l'Église protestante unie de France et aumônier militaire. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Alain Joubert pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy, 75 09 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestant-au-pluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant Service Protestant. Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wacknin. Bonne journée à vous sur France Culture.